Bref, dans sa revue de critique, Schumann guette, il espère, il attend la relève. Il faut dire qu'en l'espace de quelques années, il y avait toute une génération de musiciens romantiques. 1809, Félix Mendelssohn, 1810, Frédéric Chopin et Robert Schumann, 1811, Franz Liszt, 1813, Richard Wagner, Giuseppe Verdi. Et puis pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, aucune figure majeure n'émerge dans le paysage musical. Jusqu'à un jour de fin septembre 1853, où un jeune homme de 20 ans se présente au domicile des Schumann. Les présentations sont brèves. Le garçon se met au piano et commence à jouer. Le choc. Robert appelle Clara, Clara déboule. Alors écoutez ce que ce jeune Johannes Brahms a dû leur jouer. Pourquoi le choc? On a beaucoup parlé dans ces séances de la symbolique des registres beethoveniennes. Quand Beethoven utilise le registre grave, les sons les plus graves, ça symbolise l'obscurité. Quand il utilise le registre aigu, c'est la lumière, le divin, et le registre médium, c'est l'homme. On considère que dans cette façon de concevoir la musique, on ne peut pas aller plus loin que dans les dernières grandes œuvres de Beethoven, sa 9e symphonie. Sa 32e sonate pour le piano ou ses derniers quatuors à cordes sont des œuvres dans lesquelles Beethoven recrée l'univers avec l'homme au centre. Voilà ce jeune Brahms qui, à 20 ans, semble avoir compris, assimilé toute cette pensée beethovenienne et qui va plus loin. Dans le petit extrait qu'on a écouté, on commence par un son grave, puis un son médium avec un rythme héroïque, donc le registre de l'homme, tom, ta, ta, tom, qui monte vers le registre aigu. Et plus la basse va descendre vers les graves, plus l'homme va s'élever. Et on finit avec l'extrême grave et l'extrême aigu. Écoutez. Alors, ce n'est plus le romantisme des forêts et des rivières comme chez Schubert. Brahms venait de l'Allemagne du Nord, du port de Hambourg, où il a appris son métier de musicien en jouant dans des tavernes de marins. Et son décor, c'est la mer, c'est le romantisme de la mer. Mais pas la mer de la Barcarolle de Chopin, vous voyez, c'est pas la mer italienne, c'est la mer du Nord blanche et grise avec le soleil froid qui joue dans les nuages. Vous voyez le décor. Vous avez remarqué ce rythme du destin dont on a beaucoup parlé pour Beethoven et pour Schubert. Quand Beethoven, à 30 ans, commence à devenir sourd, il comprend que ça va être irrémédiable. Il utilise ce rythme qu'il définit comme le destin frappant à la porte, les coups du destin. Dans sa 5e symphonie, ta-ta-ta-tam. Schubert, quand il tombe malade à 26 ans, la maladie qui va l'emporter à 31 ans, utilise le même rythme, le même symbole. Et on a vu dans leurs œuvres respectives comment l'un et l'autre, ils étaient parvenus à accepter ces destins, et comment ils les avaient transcendus. Ici, chez Brahms, le destin est déjà, il a 20 ans, il est déjà transfiguré. Ça devient un élément du décor romantique. C'était le début de la 3e sonate de Johannes Brahms. On a beaucoup parlé des 3 dernières sonates de Beethoven, qu'il écrit à la fin de sa vie. et de cette dernière sonate qu'on n'a pas pris le temps d'écouter, mais qui est un monument à part dans l'œuvre, le répertoire du piano. On a beaucoup parlé des trois dernières sonates de Schubert, trois monuments, pareil, qu'il écrit juste avant sa mort, et la dernière sonate de Schubert, qui est un monument, qui est peut-être à l'égal de la dernière sonate de Beethoven. Voilà Brahms qui arrive. À 20 ans, il a écrit déjà ces trois sonates. La troisième sonate de Brahms est peut-être la seule œuvre qui puisse se hisser à l'égal de la dernière sonate de Beethoven, de la dernière sonate de Schubert. C'est ces trois œuvres qui éclairent tout le répertoire pour piano. Sauf que lui, il a 20 ans. Ah, bon. Tous les musiciens, un jour, en rigolant, se sont demandé si Brahms ne serait pas la réincarnation de Beethoven. On va écouter un peu le deuxième mouvement de cette sonate. Alors, en bon romantique, Brahms cite un poème en exergue, un petit poème de Sternau, qui dit « Le soir tombe, la lune brille, là se trouvent deux cœurs amoureux, tendrement enlacés. » Vous sentez la couleur de ce mouvement. On a aussi beaucoup parlé dans nos séances de la symbolique des tonalités. Quand un musicien à cette époque improvise ou qu'il compose, il choisit une note qu'on appelle la tonalité qui va donner la couleur de l'œuvre. Et il choisit un mode, un ensemble de notes majeures ou mineures, plutôt lumineux ou plutôt sombre, qui va s'épanouir au-dessus de cette tonalité. Ces tonalités sont des symboles. On a beaucoup parlé de ré mineur, la mort, dans la 17e sonate de Beethoven quand il écrit son testament, dans le quatuor La jeune fille et la mort de Schubert quand il tombe malade, dans le dernier prélude de Chopin. Je ne suis pas sûr qu'on ait parlé de ré majeur. Ré majeur, c'est la lumière du soleil. Et ici, on est en ré bémol majeur, la lumière de la lune. C'est le clair de lune de Debussy. Ré bémol majeur, la berceuse de Chopin. Tant d'autres exemples. Donc le décor est posé, on a la lumière de la lune. Et là-dessous, qu'est-ce qu'on a? On a deux amoureux, deux cœurs amoureux tendrement enlacés. Un rôle ici est assigné à chacune des deux mains du pianiste. La main droite, c'est le cœur de la fille. Qui fait ta-da. Et la main gauche, c'est le cœur du garçon qui lui répond, qui fait ta-da. Ta-da, ta-da. Ils sont enlacés. Écoutez. Évidemment de ces rythmes immuables, ces rythmes d'éternité par lesquels Beethoven ou Jean-Sébastien Bach nous place devant l'éternité du divin, par lesquels Schubert à la fin de sa vie nous place devant l'éternité de la mort, et Chopin dans ses nocturnes nous place devant l'éternité du cosmos. Ici, évidemment, c'est l'éternité de l'amour. C'est la fin de ce second mouvement. On a toujours le rythme d'éternité, on a une basse d'éternité, et au-dessus, nos deux amoureux chantent ensemble. Écoutez. On a les deux voix. le temps, je suis pénible, c'est la dernière, je me lâche. Peut-être vous vous souvenez de ce que faisait souvent Beethoven ou Schubert, ils exposaient leur mélodie dans le registre médium grave, le registre de l'homme avec une voix profonde, et ensuite ils le transposaient dans le registre médium aigu, l'homme qui s'élève, qui cherche à s'élever vers la lumière. Ici, Brahms fait le contraire. Il commence par le registre médium aigu, puis il va matérialiser son chant. Il va plonger ses racines dans la terre, vous allez entendre les basses qui descendent, pour pouvoir monter jusque là où il va monter. Donc ce romantisme, évidemment, on exprime des sentiments du dedans en les associant avec l'évocation du dehors, de la nature. Pour moi, ici, c'est à la fin de la nuit le soleil qui va se lever. On distingue déjà sa lumière, vous allez le voir émerger. Et le sentiment intérieur, ressentez. Imaginez la tête de Schumann